Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchet.
19h17 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Aude Rossigneux. Bonsoir.
Bonsoir.
Le conseiller en communication Jean-Luc Manot. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Nicolas Domenac, directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire, chroniqueur ici évidemment RTL. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir à vous.
Et on est très heureux d'accueillir Raphaël Antoven, professeur de philosophie, auteur de Nouvelles Morales Provisoires. Ça vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir.
Bonsoir Marc-Olivier.
Bienvenue
bonsoir à tous.
Raphaël sur RTL.
Un plaisir.
Ce sont des images qu'on ne voulait plus jamais voir. Le mot Juden, juif en allemand, tagué sur la vitrine d'un restaurant Bagelstein en plein Paris. Le tag a été découvert samedi matin. D'autres graffitis antisémites ont été signalés sur plusieurs façades parisiennes. Le délégué interministériel à la lutte contre l'antisémitisme a saisi le procureur de Paris, le préfet de police. Il sous-entend d'ailleurs que ces actes antisémites sont encouragés par les laissés-aller des gilets jaunes. Ça l'inquiète. Alors est-ce qu'on a franchi un cap? C'est le retour de la bête immonde. Comment vous l'expliquez? Déjà sur les réseaux sociaux qui seront peut-être mis en accusation ce soir autour des micros d'On refait le monde. Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir. Je ne croyais jamais vivre ça, soupire Gérard Larcher en postant ses croix gammées immondes tracées sur des portraits de Simone Veil. Autant de réactions outrées, effarées pour le Juden peint sur une vitrine de l'île Saint-Louis. Parmi les plus repris, Johann Sfar, le dessinateur qui n'hésite pas à accuser les gilets jaunes. Il y aurait eu de tels graffitis antisémites à un défilé de n'importe quel parti ou syndicat. Ça aurait fait un scandale justifié. Même à un défilé du FN, ils auraient eu 3 procès et Marine Le Pen aurait exclu du monde. Ici, non. Ici, personne n'a rien vu, n'y est pour rien, n'en pense rien. Jamais la culture de l'excuse ne s'est aussi bien portée, se désole-t-il. Ça énerve aussi Christophe, que certains s'agitent plus pour dédouaner les gilets jaunes que pour dénoncer ces tags. Gildas aimerait quand même rétablir quelques faits. L'inscription date de la nuit précédant la manif, rappelle-t-il. Ce qui n'exclut pas que des gilets jaunes aient pu commettre cet acte. Mais rien ne les accuse pour l'instant. Pardon ? Alors on ferme les yeux ? Je pense pas. Non, il y a trop de faits identiques depuis des semaines. On va pas se taire encore, s'écrit Salomé. Laura se souvient que quand une certaine classe intellectuelle nous bassinait avec le nouvel antisémitisme des banlieues, bah jusqu'à preuve de contraire, les images antisémites qui fleurissent dans Paris tous les samedis, c'est le bon vieil antisémitisme franchouillard de filiation anti-Dreyfus. On se réveille, Anne-Sophie lance aux gilets jaunes, insurgez-vous et en masse contre cet antisémitisme qui règne dans vos rangs, ou assumez votre participation active à la résurgence de la bête immonde, votre silence est abject. Pour Stéphanie, ce sont juste des abrutis qui vous laissent faire de la pub et doivent bien être content que ce soit repris partout ce soir, mais Frédéric, pour finir, n'est pas d'accord. Étude de la Fondation Jaurès à l'appui, 44% des gilets jaunes croient en un complot sioniste mondial, dit-il, et propagent bien sur les ronds-points une rhétorique inspirée d'Alain Soral et Dieudonné.
Jean-Luc Manot, inquiet ce soir par ces tags du week-end où finalement, pas plus que ça.
Plus qu'inquiet même, hein, parce que là on a quand même franchi un cap, d'autant plus qu'il faut ajouter, je crois, qu'il y a eu une profanation de on a arraché les arbres qui avaient été plantés en mémoire
d'Ilan
Halimi. Donc on voit bien
qu'il y a aussi des boîtes aux lettres qui ont été taguées.
Ça s'inscrit dans un cadre qui, d'ailleurs, soyons honnêtes, date d'avant les gilets jaunes. 2018, 68%, si je ne m'abuse, d'augmentation des actes antisémites dans notre pays. Donc évidemment, on est dans la cote d'alerte. On est voilà. Moi, ce qui me frappe, enfin, je découvre pas aujourd'hui qu'il y a des antisémites et quand il y a un climat d'agitation, de violence verbale, de haine, que évidemment ces rats-là sortent des égouts. Mais ce qui me terrifie, c'est l'absence de réaction depuis des années. Alors, il y a des réactions. Les politiques condamnent, font la déclaration. Mais enfin. Quand certains hommes politiques ont accepté de manifester pour telle ou telle cause, et je pense en particulier à la cause palestinienne, cause respectable, aux côtés de gens dans une manifestation qui criaient « mort aux Juifs » et « Juifs hors de France ».
Là, vous parlez de qui concrètement, Jean-Luc ?
Non, il y a eu des manifestations.
Non, mais je me souviens très bien, mais vous parlez de quel homme politique qui était dans ces manifestations ?
Il y avait des gens de la France insoumise qui étaient là. On a déjà eu cette explication, je l'ai eu ici en direct avec, je crois, un des leaders de la France insoumise. Mais ce n'est pas la France insoumise qui est en question et que je n'accuse absolument pas de verser dans l'antisémitisme, ce n'est pas mon propos. Mais qu'on se dise finalement, on peut se trouver au même endroit où des gens crient « mort aux Juifs » ou « Juifs hors de France » sans quitter, sans protester immédiatement, sans s'indigner, ben ça donne des formes d'autorisation à un certain nombre de gens, bien pire encore.
Il y a une vieille lame de fond qui est effectivement pas récente. Souvenons-nous quand même de l'attentat de Mohamed Merah dans l'école de Toulouse. Comment est-il possible que le lendemain, alors qu'on avait tué des enfants juifs parce que juifs, tout le monde n'est pas manifesté dans la rue, alors que parfois il y a des soulèvements et des manifestations spontanées pour bien moins que ça. Donc oui, ça vient de loin, mais ça vient de loin aussi. Alors bien sûr, on peut parler de ce nouvel antisémitisme dit des banlieues, etc. Mais on ne peut pas oublier qu'on est aussi la patrie de Pétain, de Brasillac, de Céline, qu'on s'est interrogé sur est-ce qu'il fallait republier les pamphlets de Céline il y a exactement un an à peu près. Donc il y a un vrai travail à faire. Je pense qu'on ne l'a pas fait. En fait, je pense qu'on ne l'a pas fait. Et ça nous revient à chaque fois, par vague. Effectivement, là en ce moment, on est dans une grosse vague. Je suis très désarmée face à ça. Je suis d'autant plus désarmée qu'effectivement, on a tendance... Vous disiez, les rats sortent à ce moment-là des égouts. Et oui, dans des moments de colère, les choses les plus énormes et les plus dégueulasses ressortent. Je trouve que l'affaire est beaucoup trop grave pour être instrumentalisée et liée uniquement à la question des gilets jaunes, parce qu'elle vient de plus loin. Et je pense que c'est trop grave que de l'instrumentaliser.
Quand on parle ici, juste puisque vous parlez de l'école aux Aratora, mais il y a quelques jours à Jérusalem, la synagogue dédiée à une victime des attentats de Toulouse a été vandalisée là-bas, à Jérusalem. Raphaël Antoven.
Oui, des nazis, il y en a toujours eu. On parle d'un cap franchi, enfin le même cap était franchi au moment de l'assassinat de Mireille Knoll ou de la profanation du cimetière de Carpentras. Des nazis, il y en a toujours eu. C'est pas tant ça le problème, même si ça c'est une tragédie, c'est une catastrophe, mais ce geste est tellement odieux ou antipathique qu'il va pas faire l'unanimité. Non, le problème c'est les gens qui s'en foutent, c'est ce que disait Jean-Luc Manot tout à l'heure. Le problème c'est les gens qui sont indifférents, qui s'habituent, c'est là que la peste revient. Le problème c'est pas le nazi, le problème c'est l'attentiste, c'est le collabo, c'est celui qui ferme les yeux, c'est le conspirateur du silence, comme dit la philosophe Marilyn Maillet. C'est-à-dire c'est celui qui garde un silence prudent devant ça. Et l'autre chose qui me frappe, c'est que évidemment, on fait aux gilets jaunes le procès d'intention d'être antisémite. C'est absurde. Considérer que le mouvement est un synonyme de l'antisémitisme, ça n'a aucun sens.
Mais quand il dit tout à l'heure, Frédéric Potier, le mouvement des gilets jaunes m'inquiète.
Alors justement, ce que je veux dire ici, c'est que l'un des rares dénominateurs communs du mouvement disparate des gilets jaunes, c'est le sentiment d'une confiscation ou d'une dépossession. Confiscation du pouvoir d'achat, confiscation du pouvoir de décision, tous les deux aux mains d'une oligarchie fantasmatique. Et ce discours-là n'est pas de l'antisémitisme, mais il est totalement compatible avec l'antisémitisme. Il est totalement compatible avec le sentiment que les juifs sont des cancrelats qui gouvernent le monde en secret. Les gilets jaunes ne sont pas un mouvement antisémite, mais l'antisémitisme des gilets jaunes n'est pas accidentel. Quand on se simplifie le monde de cette façon-là, on est plus facilement antisémite.
Nicolas Domenac.
Oui, c'est ça. Il y a quand même des responsabilités diverses et à bien cerner. Les gilets jaunes, ce qu'on peut et ce qu'on doit leur reprocher, parce qu'il y en a marre de les infantiliser, c'est de leur dire que ce qui se passe à l'occasion de leur manifestation et qu'ils tolèrent est insupportable, que ce soit des actes de violence contre les symboles républicains, voire contre les élus de la République, ou des actes antisémites. Je veux dire, ils ont à prendre des distances, je veux dire, avec cela, sauf à être considérés comme complices et à se nuire à eux-mêmes, d'ailleurs, d'une certaine façon. Cela étant, il faut aussi voir de quel antisémitisme on parle, quelle est la part de notre antisémitisme vieux fond de sauce qui remonte à la surface à la faveur de la crise, et l'antisémitisme lié à l'islamisme. Chacun se renvoie à son antisémitisme.
C'est de là-dessus que j'aimerais qu'on avance un peu.
Il y a juste un point commun aux deux antisémitismes, c'est le sentiment que les juifs contrôlent les choses en sous-main. Oui. Et ça, c'est un point commun à l'antisémitisme déicide, l'antisémitisme du juif pingre, ou bien l'antisémitisme...
Mais aujourd'hui, lequel est prégnant, vous diriez?
Moi, je pense que les deux sont à prendre très très au sérieux, et j'étais très choqué quand Édouard Philippe s'est contenté sur Facebook en novembre dernier de relever que les actes antisémites avaient explosé, ce qu'évoquait tout à l'heure mon camarade Jean-Luc Manot, de 69% d'ailleurs, pas 68%, mais je veux dire, se contenter de ça, il en a fait 100 fois plus sur la limitation de vitesse. Je veux dire, il fallait, si ça a explosé et ça a explosé à ce point-là, il faut sonner l'alarme et se donner les moyens, et l'État a les moyens, et la justice a les moyens. Et d'ailleurs,
Justement, parce que tout à l'heure, c'était un peu la limite de l'interview de Frédéric Potier, c'est qu'à part le dénoncer fermement, mettre en cause les gilets jaunes, je ne l'avais jamais entendu le faire, ou en tout cas les pointer du doigt plutôt que les mettre en cause, sur les moyens, l'école, et puis quoi d'autre
Non, mais d'un mot, je pense que ce qui est frappant, c'est que dans ce mouvement et dans cet univers, c'est absurde de dire, je suis mille fois d'accord, les gilets jaunes, mouvement antisémite, c'est une crétinerie sans nom. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le climat général autour de la théorie, des théories du complot, est extrêmement forte. Et la théorie du complot, finalement, elle a été inventée autour de, dans l'histoire, autour de l'antisémitisme. Quand il y avait un mort, c'était un juif qui l'avait tué. Quand un enfant mourait quelque part, c'était les juifs qui l'avaient assassiné. Il y a autour de la question du judaïsme, il y a toujours eu la question de la théorie du complot. C'est une réalité historique. Alors après, comment on combat ? Moi, je suis évidemment pour la loi, le truc, etc. Mais je vais dire un truc, je n'y crois pas. Je ne crois pas que c'est la loi qui va régler. Ce qui réglera le problème de la réaction à l'antisémitisme, c'est le peuple français. Pour peu que les responsables politiques, pour peu que les intellectuels de ce pays, pour peu que l'ensemble des gens qui ont un peu d'influence se mobilisent et arrêtent de regarder ailleurs.
On en parle dans un instant sur RTL, ne bougez pas.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel.
Ce soir donc avec Raphaël Antoven, Nicolas Demenac, Jean-Luc Manot, Audre Signeux pour conclure ce premier thème. Sur comment lutter contre l'antisémitisme, Raphaël ?
Par la pédagogie, Jean-Luc Manot parlait de... Justement, il parlait tout à l'heure de théorie du complot. C'est quand même très intéressant de voir la façon dont les théories du complot se développent avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire avec le sentiment que, en fait, toutes les opinions se valent et qu'on a bien le droit de tenir pour vrai la version du monde qu'on préfère. Or ça, c'est de super mauvaises méthodes. N'importe quel pédagogue est en mesure d'expliquer à quelqu'un qui dit « J'affirme ceci, prouvez-moi le contraire, et tant que vous ne l'avez pas fait, ça veut dire que j'ai raison. » Un bon pédagogue est capable de lui montrer qu'il se trompe sur la méthode. Il ne s'agit pas de dire aux gens « les choses ne se sont pas passées comme ça parce que personne ne détient la vérité », mais il s'agit d'expliquer aux gens de quelle façon on peut en venir à une conclusion. Et ça, ça marche.
Vous êtes sûr que ça, ça marche ?
Mais ça marche. Je ne serais pas prof si ça ne marchait pas.
Il y a une chose qu'on appelle l'autodéfense intellectuelle qui commence à être enseignée par endroit. Et ça, c'est important.
Il y a même un manuel d'autodéfense intellectuelle.
Maintenant, c'est-à-dire, moi, mon gosse qui a 4 ans, c'est maintenant qu'il faut lui apprendre l'autodéfense intellectuelle, qu'on vérifie quand on dit un truc et qu'on ne croit pas tout, parce qu'il y a des histoires qui racontent des fictions et puis il y a des histoires qui racontent la vérité. Et en tout cas, une vérité... Comme ça, ça ne veut rien dire. Donc, éduquer. Je ne vois pas d'autre solution.
Cela dit, l'antisémitisme ne disparaîtra jamais, les théories du complot non plus, et les gilets jaunes probablement pas. Donc,
voilà. Ça marche à la condition qu'on sache qu'on n'en a jamais fini, que c'est des serpents à mille têtes, que chaque fois qu'on en coupe une, il en repousse une autre ailleurs ou la même au même endroit.
Mais ce n'est pas une raison pour ne pas la couper.
Voilà, et donc c'est simplement, il faut se mobiliser en permanence. C'est jamais fini.
On fait parfois du cancer une grande cause nationale, on peut faire aussi de la lutte contre l'antisémitisme une grande lutte nationale.
En se disant que quand on arrive à couper une tête, ça fait déjà une tête de moins. Oui. C'est déjà ça de pris sur l'ennemi. Enfin, non, mais voilà, parce qu'on est on est démunis. Mais ce que disait Raphaël tout à l'heure, je suis d'accord avec ça. Moi, j'avais un débat il y a une semaine avec mes étudiants, et à un moment donné, il y avait ce débat, quoi. La vérité, c'est quelque chose de complexe.
Vous donnez des cours où, Jean-Luc ?
À l'école supérieure de journalisme.
Ouais,
de...
mais Yvan Rioufol sera là, il veut dire aller donner des cours en banlieue. Et vous
ça
allez
marche
voir
aussi.
Que...
On peut tous prendre des cours à un moment donné à des degrés divers. Et pourquoi pas
Apparemment, il y a des discours qui ne sont pas audibles et même tenables, dit-il.
Mais c'est de dire, y compris dans cette partie de la population qui était studentine, que la vérité, elle est sans domicile fixe. Et qu'en tout cas, elle n'habite pas à un premier clic chez Google.
Ce qui n'est pas audible. On est inaudible quand on s'adresse à une foule. Une foule n'a besoin de croire, a envie de croire et a besoin de slogans et de simplifier les choses. En revanche, tous les individus qui composent cette foule sont aussi intelligents que des gens peuvent l'être. Et là, entre quatre yeux, on peut travailler. Et c'est le sens de ce travail.
Encore une fois, je ne veux pas dire que tout ça est foutu, mais quand vous entendez certains... et notamment notre ami Rioufol, expliquer que parler d'antisémitisme dans une classe de banlieue, c'est impossible.
Mais c'est pas vrai. C'est concrètement, d'abord, concrètement, empiriquement, il y a des tas de témoignages de gens qui font un très bon travail, qui disent que c'est faux. Ensuite, que ce soit difficile, c'est certain. Que par ailleurs, ce soit une victoire d'y parvenir, c'est vrai. Reste que c'est pas une raison pour pas le faire, et ça marche.
Non, c'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai des expériences dans des villes. Je vais parler de la ville de Simone Veil à Nice, où un travail régulier est fait. Alors que tout le monde expliquait que c'était de l'histoire ancienne et que c'était pas la peine, on envoie des gamins à Auschwitz ou à Birkenau pour regarder les choses en face. La théorie. C'est plus compliqué quand des classes de gamins reviennent de là, de leur expliquer que c'est pas vrai, que ça n'a pas existé. Et à ce moment-là, quand on a un certain nombre d'artistes qui font profession d'antisémitisme sur une tribune et qui mettent à ce moment-là le gilet jaune, c'est une confusion qui est une confusion inacceptable contre laquelle les gilets jaunes, là-dessus, je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicolas, doivent s'insurger.
Les gilets jaunes, on continue à en parler autrement, François Berléand sur RTL, donc, qui en avait marre, depuis, il croule sous des insultes sur Internet et pas que. Peut-on critiquer les gilets jaunes ?
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et ce soir avec Aude Rossigneux, Jean-Luc Manot, Nicolas Domenac et Raphaël Antoven. C'était samedi matin sur RTL. François Berléand n'a pas mâché ses mots contre les gilets jaunes.
Moi, depuis le début, ils me font chier les gilets jaunes. Non mais sans blague, j'étais en tournée de théâtre. Au rond-point, la première fois, bon, on signe, on dit bah, on est avec vous, c'est vrai, on comprend. Et puis, au bout d'un moment, quand on sort de Bordeaux, qu'on voit une file de 10 km de camions qui ne pouvaient pas livrer à Bordeaux ou à Bayonne. Tout ça parce qu'il y avait 20 gilets jaunes qui faisaient chier, quoi.
Alors, depuis plusieurs gilets jaunes s'en prennent à l'acteur sur les réseaux sociaux. Peut-on critiquer les gilets jaunes, Benoît ?
Ah oui, courageux, méprisant, on a toute la palette des réactions. François Berléand a enfin dit ce que des millions de gens normaux pensent et n'osent pas dire de peur de se faire regarder de travers, voire agresser, applaudit-il. Mais Paul propose plutôt à M. Berléand de tester une vie à 1000 euros par mois pendant un an, puis il estimera ensuite la situation. Beau trouve ça logique, il fait partie de la casse qui crache sa haine sur les gueux. Continuez comme ça et vous attiserez la guerre civile. Mais arrêtez, répond Baudry, moi mon salaire est de 1243 euros par mois et malgré ma modeste situation, gilets jaunes, comparses et racailles, ils m'emmerdent depuis le début. Ils haïssent et ils détruisent un pays que j'adore. Bravo, monsieur Berléand. Il a le droit d'avoir un avis, concède Alain. Le problème est que les médias lui donnent la parole et aux artistes comme lui, mais ils oublient de la donner à moi et à beaucoup d'autres. Réfléchissez bien à ça. Roux réfléchit surtout aux évolutions du mouvement. Ces abrutis qui se prennent pour le peuple sont prêts à rétablir la guillotine pour leurs opposants. Alors Berléand a fait preuve d'un sacré courage. Je vous signale juste, pour finir, qu'il y a un certain François Berland sur Twitter, ouais, qui gît dans le sud-ouest. Ouais. Rien à voir avec l'acteur, son nom de famille c'est Berland. Et ça ressemble, bah, il se prend des montagnes d'insultes depuis vendredi, il est en train de craquer là. Alors pitié, amis gilets jaunes, si vous nous écoutez, laissez tranquille François Berland, il n'en peut plus, il n'y est pour rien.
Est-ce qu'ils vous font chier les gilets jaunes, Raphaël ?
Ouais, enfin, laissez tranquille François Berland. Laissez tranquille François Berléand aussi, pardon, hein, c'est aussi.
Bah, mais ils vous font chier.
Je le dirai pas comme ça, mais moi ce qui m'énerve, c'est la libide, la colère. Les gilets jaunes disent oui, ok, on a saccagé l'Arc de Triomphe, mais on est en colère. On a lynché des journalistes, mais on était en colère. On a tagué Youden sur une pâtisserie, mais on était en colère. Plus on obtient, plus on menace, mais on est en colère. Faut comprendre. Alors, du coup, c'est vrai que certains ben, les ont traités de connards, d'abrutis, de racistes, mais ils étaient en colère. Donc voilà, il faut comprendre. Je veux dire, quand on brandit la colère comme une excuse, on la reçoit comme un boomerang.
Alors, moi, j'ai pas tellement l'impression qu'on soit privé de critiquer les gilets jaunes depuis le début. On les a traités de beaufs, on les a traités d'illettrés, etc.
On a fait extrêmement gaffe, sachant qu'en plus, ça allait être envoyé à la figure comme étant des privilégiés, des castes, etc.
Non, ouais, mais alors, ce qui est intéressant, justement, il y avait d'ailleurs un fil sur Twitter que moi, j'ai trouvé assez intéressant d'une jeune femme dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, qui disait, ce qui est intéressant dans ce que dit Berléand, c'est que c'est aussi les terminologies. Ils me font chier, j'en ai rien à foutre des critiques. Et elle disait, à mon avis, assez justement, que si on avait entendu des gilets jaunes parler comme ça, on aurait dit, ah ben c'est des gens qui savent même pas s'exprimer, qui ont que la grossièreté pour, comme discours. C'est effectivement un peu court, ils me font chier. Voilà. Et puis, on peut pas non plus découvrir qu'un mouvement social, oui, ça embête des gens. Bah oui, mais effectivement, il a peut-être pas envie qu'il y ait des gens qui manifestent pour qu'ils repaient l'ISF. Et quand on était à la Rotonde, évidemment, on est plus un ami de Macron que les gilets jaunes. Tout ça est assez logique. Ça ne justifie pas.
Vous pouvez pas enfermer ceux qui en ont marre. Et pour
mais
des
ça
raisons,
ne justifie
soit,
pas
pour
les
raisons,
les,
soit
les
familiales,
trucs,
voilà. Soit de travail, parce qu'ils sont au bord du bilan, parce qu'ils bossent aussi. Il y a une partie du peuple qui bosse, qui essaye et qui vit le samedi de son travail. On peut...
Oui, mais c'est pas Berléand, ça.
Il y a une partie des Français qui en aura le bol. Il faut l'entendre aussi. Il y a une partie des Français qui n'adhèrent pas à ce mouvement. Alors, c'est vrai que le dire sur ce mode-là, ça participe pas de l'apaisement du débat, ça permet pas de comprendre
pas
pourquoi ce mouvement continue à durer avec sa détermination. Ça ne permet pas de comprendre aussi pourquoi une partie importante des Français continue de le soutenir. Et ça, c'est vraiment dommage. N'empêche qu'il y a ces deux France-là et qu'il faudrait mieux essayer d'écouter l'une et l'autre plutôt que de disqualifier Berléand parce qu'il gagnerait trop d'argent pour qu'on n'entende pas sa parole. Je veux dire, ça ne la disqualifie pas.
Oui, moi je crois qu'on peut pas dire. Enfin, moi les gilets jaunes ne me font pas chier. Ils parce que ils témoignent de réalités, de problèmes non réglés, de problèmes à régler. Que ça a été un révélateur et la preuve, c'est que on en tient compte, qu'on a lancé un grand débat, etc. En revanche, des choses me font chier chez les gilets jaunes. Alors, je ne vais pas faire la liste complète, on n'a pas le temps. Mais celle qui me fait chier le plus, c'est de s'arroger l'idée qu'on est à soi seul le peuple. Ça, cette espèce de dérive ochlocratique, hein, qui fait que c'est la foule qui est plus forte que la démocratie, oklos contre demos, hein, avec quand même le fait que moi je connais pas de système meilleur que celui de la démocratie. Et je trouve qu'à un moment donné, ou même si c'est fait dans des termes que je n'utiliserai pas, il y a des gens qui disent, dites donc, dans le peuple, il y a aussi peut-être des gens que ceux qui prétendent être à eux seuls le peuple font chier, je trouve que c'est pas si mal.
Oui, bah c'est frappant de voir à quel point, comme les agresseurs se vivent comme des victimes, ils ne supportent pas qu'on les agresse eux-mêmes. C'est étonnant de voir à quel point les gens qui vous insultent ou qui vous crachent à la gueule sont susceptibles quand d'aventure vous leur répondez. Et l'autre chose frappante, c'est que personne ne se dise que les gens qu'on flatte ou qu'on s'abstient de critiquer sont des gens qu'on méprise. Les gens qu'on courtise, à qui on fait semblant de parler gentiment, sont des gens qu'on méprise. Celui qui se moque des autres, c'est celui qui ne veut jamais leur déplaire. C'est tout le problème du RIC, d'ailleurs. Le RIC produirait des souverains qui seraient des courtisans de leurs électeurs, puisque l'impopularité leur vaudrait la perte de pouvoir. On ne peut pas demander à un politique de nous parler gentiment. Ça veut dire qu'on demande à un politique de nous mentir spectaculairement. Et le dernier truc qui me fascine avec cette histoire, c'est l'alibi de la caste. C'est-à-dire que le moindre reproche fait à l'endroit des Gilets jaunes est immédiatement neutralisé comme l'expression d'une caste.
Absolument.
Immédiatement neutralisé comme l'expression d'une caste. Vous avez, par exemple, Édouard Louis qui explique que quand vous reprochez leur homophobie ou l'antisémitisme de certains gilets jaunes, immédiatement, ce sont des bourgeois qui disent « taisez-vous les pauvres ».
Ou les journalistes.
Etc. Ce qui est pareil. C'est trop facile. Ce geste-là est trop facile. Ce geste-là est l'adversaire. Le véritable adversaire, ce ne sont pas les revendications légitimes, ce ne sont pas des gens qui recréent de la fraternité autour des ronds-points. Non, le véritable adversaire, ce sont les gens qui permettent tout ça en neutralisant la discussion.
Mais après 13 semaines, puisqu'on est à l'acte 13, il y a un grand débat, etc. Est-ce qu'on peut pas dire, comme Berléand, pas qu'ils nous font chier, mais qu'ils finissent par nous faire chier, parce qu'en même temps, ça y est, on a entendu, non, et on verra s'il si est en train de ressortir mais à l'issue non, du grand débat, non ?
Moi, je trouve que ce qu'on peut dire, c'est pourquoi, à l'issue de 13 semaines, on ne sait pas de manière claire et nette quelle est l'articulation, au fond, de leurs revendications, quelle est la hiérarchie sociale, pourquoi ils n'ont pas réussi à amalgamer autour d'eux, avec eux, d'autres catégories de la population, que ce soit les enseignants, les fonctionnaires, les salariés des grands groupes, les jeunes des banlieues, pourquoi ils se sont isolés à ce point-là, et font vers quoi ils veulent aller, parce que vous ne pouvez pas négocier avec des gens qui refusent la démocratie et refusent même leur propre démocratie et d'élire leurs propres représentants. Oui, donc voilà.
Oui, on peut dire que peut-être ça a pas mal duré déjà. Au théâtre, puisqu'on parle d'actes, il y a déjà des pièces de 5 actes qui sont lassantes. Alors, à part 13 actes, tout le monde n'écrit pas le Mahabata.
Allez, dans un instant, la Ligue du LOL, cyberharcèlement ou conneries de jeunesse.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et ce soir avec Raphaël Antoven, Nicolas Domenac, Jean-Luc Manot et Audre Signeux, insultes, racistes, homophobes, grossophobes, harcèlement, photomontage entre 2009 et 2012. Un petit groupe de jeunes journalistes faisait régner la loi du plus fort sur les réseaux sociaux. Il s'appelait la Ligue du LOL. Aujourd'hui, leurs anciennes victimes brisent le silence, font vaciller la carrière de ces trentenaires qui sont devenus très influents. Plusieurs d'entre eux ont été mis à pied par leur journal Libération ou Les Inrocs. Alors cette Ligue du LOL, on débriefe cyberharcèlement, conneries de jeunesse sur les réseaux sociaux. Benoît.
Qu'est-ce que cette Ligue du LOL, sinon l'équivalent sur Twitter d'une de ces fraternités d'étudiants US, misogynes, racistes, classistes, et ivres d'eux-mêmes, demande Gildas. Ça résume assez bien la vie générale, très remontée après tous ces témoignages bouleversants postés au fil des heures. Pour Sandrine Rousseau, ce scandale est comme l'affaire Baupin, la fin d'un monde, celui de l'impunité. Elle l'espère en tout cas. La députée En Marche Laetitia Avia tweet que l'anonymat sur les réseaux sociaux encourage ce sentiment d'impunité pour ceux qui s'autorisent à humilier, insulter. La loi contre la haine sur Internet permettra de mieux lever cet anonymat lorsque les délits sont commis. Ah ouais, vous avez rien compris, lui répond Reda comme beaucoup. Les gars agissaient à visage découvert. Et la loi d'alors permettait déjà de les condamner, ajoute Fabrice. Mais c'était une autre époque. L'affaire Ligue du LOL est importante, mais ce n'est pas encore le MeToo du journalisme français, prévient Lucie. Pour que ce moment arrive, il va falloir qu'on parle des confrères qui font la chasse aux étudiantes, ceux qui envoient des photos de leur sexe, des consorts harcelés, etc. Tout un système. Gabriel aussi souligne que ces témoignages mettent en avant deux problèmes de fond dans les médias. Un, la place des femmes dans ce milieu. Deux, le fonctionnement quasi exclusif par réseau. Caroline Dehaas trouve en tout cas qu'il y a une seule chose chose importante à retenir, les faits peuvent cesser. On peut mettre fin aux violences et retrouver une ambiance sereine de travail. C'est possible, même si, pour finir, Brooke se demande pourquoi cette histoire de Ligue du LOL devient un problème disciplinaire plutôt qu'un problème judiciaire. Ils sont presque tous suspendus ce soir, mais depuis quand un employeur rend-il la justice ?
Nicolas Domenac, donc cette Ligue du LOL avec finalement ces bobos qui sont des gros beaufs.
Et des femmes qui ont souffert de manière incroyable. J'ignorais ça, ça m'a bouleversé leur témoignage. D'abord, sur le net, je veux dire, elles ont été harcelées pendant des années, elles ont vu leur vie comme ça piétiner, de manière, leur intimité, je veux dire, violée. C'était, ça a été une horreur pour elles. Donc il faut lire ce qu'elles ont écrit. Alors c'est la première chose. Et c'est d'autant, pour moi, c'est d'autant plus choquant, il est bon de le rappeler de temps en temps, que Internet, c'était l'instrument de la liberté. Et quand ça se transforme en instrument d'asservissement, de torture, de harcèlement, je veux dire, ça mérite qu'on s'y arrête. Deuxièmement, c'est au fond, ça révèle plusieurs choses. C'est que c'est Internet, ça s'est reconstitué comme un bastion du machisme. Je veux dire, il y a très peu de femmes, enfin trop peu, hein, 25% je crois à peu près. Et ces messieurs se sont conduits et se conduisent souvent là de manière en meute, je veux dire, en groupe, en rat d'égout, enfin comme vous voudrez. Et puis en petit mec. Et c'est l'autre chose qui me fascine, c'est que ce sont souvent des jeunes gens dits de gauche ou d'extrême gauche. Mmh. Et qui
il y a un côté virtuel aussi là-dedans, et oui. Peut-être que c'est aussi un des sujets, c'est qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on fait
à 18 ans, manifestement. Mais comment ces gens-là, avec le bas amiotique dans lequel ils ont baigné, en théorie, je dirais, culture de gauche, c'est toujours une interpellation, comment ils ont pu se révéler, je veux dire, aussi sexistes, machos, puant, je veux dire, arrogant et à briser des carrières. Et là, c'est le dernier point, c'est que, je veux dire, le système de, au fond, qui est une réplique de d'autres endroits, de lieux de travail, c'est que les mecs continuent, au fond, à organiser leur prise de pouvoir au détriment des femmes.
Raphaël.
Oui, ce qui est intéressant, c'est l'effet d'entraînement. C'est-à-dire que même si vous êtes un agneau et que vous êtes jeté au milieu d'un groupe de prédateurs qui s'éclate à torturer des gens, à les humilier, à leur envoyer des photos, ou envoyer des photos aux enfants des gens, enfin bref, ouais, qui fait ça, n'importe quoi. Si vous êtes au milieu de ça et que vous êtes un agneau, et ben vous allez devenir un mouton et vous allez faire comme les autres, un mouton prédateur en fait. Le mouton est plus fort que l'agneau. Même quelqu'un de gentil au milieu d'un groupe comme ça peut subir un effet d'entraînement, ce qui n'excuse rien, ni personne, et ce qui ne déresponsabilise personne. Ce qui est fou, c'est que depuis le début, tous les sujets que vous avez choisis, Marc-Olivier, sont des sujets qui disent une chose, c'est que la libération de la parole, que ce soit les Gilets jaunes ou la Ligue du LOL ou ce qu'on voudra, ou la décomplexion de la parole, débouche sur de la censure. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que plus on libère la parole, plus on est confronté à des problèmes de censure. C'est-à-dire plus la parole se censure elle-même, plus des gens censurent les autres. Et donc de la nécessité de la loi quand même comme condition de la liberté à l'expression de la parole. Notre liberté de mouvement, elle est constamment réglée par la loi. Bizarrement, nos opinions sont très souvent dispensées de cette restriction salutaire, comme si les opinions ne faisaient pas aussi mal que des coups. Donc c'est important.
J'ai rien compris là. J'ai rien compris au rapport avec le LOL.
Si non, je vous marche sur les pieds,
ma liberté, c'est pas clair.
Ma liberté s'arrête là où commence la vôtre. Je peux pas vous marcher dessus, vous allez pas me marcher dessus, sinon on pourra pas communiquer, on pourra pas vivre au même endroit. Mes opinions sont susceptibles de vous heurter autant que mes mouvements. Mes mouvements sont contrôlés.
Mais là, ce n'est pas des opinions, là. Il s'agit de harcèlement.
Des opinions, ce que je dis.
De ce que dit Raphaël, c'est que ce n'est pas condamné comme. C'est pas condamné comme il faudrait que ça soit à la hauteur de cela.
Ce qui donne un tribunal populaire, ce qui donne des condamnations qui sont des sanctions disciplinaires qui viennent un peu tard et qui blanchissent aussi les employeurs. Donc c'est dommage.
C'est l'aspect virtuel des choses, Nicolas, c'est ça que vous pointez.
Moi, je ne suis pas pour balance ton porc, je suis pour dénonce ton porc. Sauf que la justice n'arrive pas à suivre, c'est tout le problème. Voilà, donc c'est un exemple supplémentaire de ça.
Mounir Majoubi, hier, a parlé de loser.
Secrétaire d'État au numérique, voilà. Donc.
Il a parlé de loser. Et moi, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout parce que précisément, ce n'était pas des losers. Précisément, c'était ce qu'on appelait les winners de l'époque.
Ils sont devenus des winners aujourd'hui, mais certains d'entre eux. D'ailleurs, ils racontent même dans leur acte de contrition bizarre qu'ils étaient tout seuls dans leur province.
Ils étaient une caste autoproclamée. Et du coup, c'était en tant que tels qu'ils agissaient. C'est-à-dire qu'ils se sentaient au contraire, non pas losers, mais à ce moment-là, investis d'un pouvoir totalement dingue de nuisance. Ils étaient ivres de leur pouvoir de nuisance. Et moi, quand je lis parfois, oui, c'est des trucs de cours de récré, ça me rend dingue parce que c'est les déresponsabilités.
C'est hyper violent les cours de récré.
D'abord les cours de récré ça peut être, mais je ne veux pas qu'on les infantilise parce que je suis désolée, on peut avoir du respect y compris à 18 ans. Et on peut avoir du respect pour les gens et on n'est pas obligé d'envoyer. Non,
mais c'est intéressant dans ce sujet-là, c'est leur profil, le profil de ce qu'ils étaient capables de faire et ce qu'ils sont devenus quand même, puisque pour certains d'entre eux, c'est des journalistes aujourd'hui utiles dans le débat public. Ce que fait Vincent Glatte, qui était à l'initiative de aujourd'hui, la façon dont justement il traite les gilets jaunes, c'est remarquable. C'est assez intéressant de voir ce qu'il a été capable de faire et ce qu'il est capable de faire aujourd'hui.
C'est pour ça malgré tout. C'est pour ça que la justice en France individualise les peines. On tient compte de ce que les gens sont devenus, de leur évolution,
de
leur responsabilité. Le problème, c'est que les tribunaux populaires, ne font pas ça. Moi, je suis frappé par deux choses. D'abord, c'est dans notre pays, quand même, à chaque fois qu'on soulève un truc où on a l'impression que c'est pas grand chose, enfin que c'est 10 types, alors c'est beaucoup déjà, mais en fait on s'aperçoit que c'est des phénomènes, quoi, que c'est plus important, que en réalité sur un certain nombre de choses, c'est pour ça que les barrières ne fonctionnent plus, c'est parce que c'est notre nappe phréatique qui est polluée dans le sous-sol et que on a des résurgences partout de cette pollution sur tellement d'aspects. On a fait parler de ça ce soir finalement.
Absolument. J'ai même hésité à choisir ce sujet-là parce que ils ont 30 points de commun.
Du non-respect des autres. Donc moi là-dessus, la seule chose que je peux dire, c'est que ça répond à. Il y a deux choses là-dessus qui me frappent rapidement, c'est que si ça peut calmer ceux qui disent, vous savez, cette nouvelle mode qui dit « Oh, une main au cul, c'est pas si grave, on peut plus draguer ». Vous savez, l'immense clan des bourrins qui, là-dessus, explique que malgré tout, les femmes nous emmerdent avec leurs revendications. Si ça peut les calmer, c'est une bonne chose.
Un mot, Raphaël, pour vous. Un mot, Twitter n'est pas le droit. Un tribunal populaire fonctionne sans avocat, sans prescription, sans appel, et la sentence est immédiate. C'est pas comme ça qu'on devrait rendre la justice et c'est pas comme ça qu'il devrait être puni.
Merci à tous les quatre d'avoir refait le monde ce soir sur RTL. Dans un instant, le flash de 20h et ensuite, ce sera Jacques Pradel. À tout de suite sur RTL.